que vous dites ce que je pense dans un vocabulaire antagoniste. Et nous sommes en plein bouillonnement dans une période de mutation aussi au niveau du langage. Et alors là, tu as absolument raison. Et je crois que ça continuera. Et ça continue. Qu'énormément de juifs vont continuer à fonctionner comme juifs, c'est-à-dire comme utopistes, en dehors des contenus hébraïques. Bon, il faut en prendre acte. Oui. Attendez, je ne sais pas qui est l'ordre. Oui.
Madame, vous aviez demandé la parole.
Vous savez, la...
Vous utilisez parfois positif, négatif, moi j'ai été au Parti communiste, et quand je suis...
C'est un privilège que je ne partage pas, mais...
positif, négatif, ça me fait quoi dans le monde, parce que c'était une façon de penser. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif?
Bon, très bien, ça vous m'aidez à préciser... Pardon, vous avez terminé? J'ose pas dire satisfait, mais ce sont les conditions de ce dialogue. Écoutez, vous me permettez de préciser une question de vocabulaire. Lorsque j'ai dit utopie dans le sens négatif, ça voulait dire dans ma pensée, j'espérais que c'était suffisamment clair, un rêve qui était rêvé à condition qu'il ne reste que rêve. C'est ça ce que je voulais dire. Pardon ? Non, il y a des partis pris délibérés. Excusez-moi. Il y a des partis pris délibérés de tels rêves. Et c'est ce que je voulais dire en disant que le messianisme n'a jamais été une utopie de ce genre. Il a toujours été de façon délibérée en vue d'une réalisation. Alors, vous parlez de messianisme dévoyé, et à partir de juifs, dévoyés d'ailleurs, parfois. Les mots ayant leur sens strictement étymologique, n'est-ce pas ? Alors vous rejoignez là une expression talmudique très traditionnelle, le Messie, le Mashiach, est appelé aussi Bar-Nafli. Avant lui, il y aura des avortements. Nafli, Nefel. Celui qui vient après tous les avortements. Seulement, en ce qui concerne le sionisme, mais là encore, je vous demanderai, je serai prêt à le faire, mais de ne pas mener le dialogue au niveau idéologique. Tout simplement parce que nous sommes en diaspora. Ne serait-ce que pour ça. Eh bien, c'est une autre sorte d'événement. Il y a d'autres dimensions. C'est pourquoi j'ai cité surtout une autre manière de sortir des ghettos, et avec tous ces risques et ces dangers. Vous savez, une matrice d'accouchement, c'est une matrice d'accouchement. Il ne faut pas penser, si vous voulez, à la société israélienne comme étant le paradis parachuté d'en haut. C'est un chantier. Mais c'est un chantier qui n'apparaît que pour la première fois depuis 2000 ans d'histoire, après tous les avortements possibles et imaginables, dans les mêmes perspectives du retour des exilés. Et ce que je voudrais le dire de la façon la plus sobre possible, c'est ceci. C'est un chantier plein de problèmes, mais qui est une sorte de creuset de laboratoire comme on n'en avait jamais vu, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de greffer le rêve messianique sur un type spécifique de société, mais sur un rassemblement des exilés, ce qui est tout à fait autre chose, ramenant avec eux toutes les nostalgies de tous les paysages culturels de tous les siècles et de tous les continents. C'est autre chose. Ça a une autre dimension. Et qu'il faut entendre avec la massivité de 2000 ans d'histoire. Et donc, c'est plein de problèmes. Et loin de moi la pensée de nier ces problèmes, je les vis, ces problèmes. Et parfois, ça donne mal aux mains. Et souvent. Seulement voilà, il y a là le témoignage de quelque chose qui cherche à s'engendrer, qui pour la première fois a eu un véhicule historique concret dans la réalité de l'existence et dans l'hostilité universelle. Et c'est le phénomène de la municipalité israélienne, où se cherche quelque chose dont on parlait le prophète. Je peux vous donner, un peu sous forme anecdotique, un peu ce qui se passe dans l'immeuble où j'habite. Mon voisin de palier est un juif écossais. Et puis en haut, il y a un Hongrois, un Sud-Africain, etc. Il y a un Yéménite, il y a aussi un Israélien qui est perdu là-dedans. Bon. Et les enfants sont aussi israéliens. Et alors voilà, nous sommes plein de problèmes dans le, comment on appelle ça, le conseil de maison, pardon ? Vadabait, qui est le conseil de maison. Mais c'est que des problèmes. Vous savez, quand sur le palier, je rencontre mon voisin, doublement calomnié, comme juif et comme écossais, c'est un homme charmant. Et alors il me rencontre, et on se rencontre sur le palier, on éclate de rire en hébreu. Bon. Ben, parce qu'on pense à mille choses à la fois. Imaginez la rencontre d'un Français et d'un Écossais. Et puis à l'étage au-dessus, en même temps, le Hongrois et le Sud-Africain. Il se passe quelque chose. Vous comprenez? Quand je vous disais tout à l'heure, le juif redevient hébreu, c'est plein de choses, de problèmes. Et alors vous me direz, mais là je vous réponds à l'avance, c'est une question, une option de foi. Et on peut avoir peur de la foi, mais je voudrais essayer de la décrire. Et vous me direz, ça peut avorter. L'humanité entière fait tout ce qu'elle peut pour. Moi, je ne crois pas. Je n'y crois pas à deux niveaux. D'abord, comme juif historique, tout simplement. C'est la première fois depuis 2000 ans que je peux fonctionner en hébreu, même dans la prière. La première fois depuis 2000 ans, enfin, il faut avoir le sens des proportions. Et puis, d'autre part, en tant que croyant, et si c'est Dieu qui... En tant que croyant, et donc là, je m'adresse à un vocabulaire commun aux croyants. Si c'est Dieu qui fait ça, moi je sais que Dieu joue pas aux billes. Même si les billes s'entrechoquent, finalement, chaque bille arrivera dans son trou. Voilà, je crois que c'est une option de foi. Et à ce niveau-là, je crois qu'on ne peut pas trop discuter dans les détails, on ferait de l'idéologie. Oui, pardon.
Qui avait demandé la parole?
Oui.
Plus fort.
Dans l'histoire ?
Oui. C'est parallèle à l'introduction de Dieu dans la temporalité.
Je ne dirais pas de Dieu. Là, c'est un registre un peu christianisant. Je dirais du projet de Dieu, de l'homme, de l'homme comme l'a défini Michel Principe. C'est une possibilité. C'est une possibilité, celle des mystiques. Et il y a des sionistes mystiques. Et il y a des hommes mystiques, d'ailleurs, en général. Mais je ne sais pas de quelle origine est votre vocabulaire, de façon très précise. Alors, j'ai un peu de difficulté à vous répondre. Et lorsque nous disons que... Je vous donnerai une image. Vous savez, il y a écrit dans un de nos textes, « Si vous observez mes commandements, je donnerai de l'herbe dans vos champs. » Dans le Kretschmar, okay? Alors il y a un juif, puis une fois, qui s'est dit, tiens, je vais voir si ça marche. Il a observé les commandements, et il les observait pas seulement de loin, il les observait. Et puis, il a pris son tabouret, il s'est assis dans son champ, et il a attendu que l'herbe pousse. Alors un autre juif qui passait par là, qui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes? Il dit, non, j'attends de voir si le verset marche. Il a écrit, si vous observez mes commandements, je donnerai de l'herbe. Il dit, et si tu prenais une pelle, ça marcherait pas plus vite? Il faut comprendre, il y a une erreur théologique. C'est comme ça que Dieu agit, à travers les bras de l'agriculteur. Et c'est une erreur théologique, c'est pas une erreur idéologique. Alors, il faut bien comprendre, moi je ne comprends pas qu'est-ce que vous dites quand vous dites il faut laisser à Dieu intervenir. Moi je crois qu'il intervient colossalement. Je peux vous raconter une petite anecdote, c'est pas l'idéologie. Après la guerre des six jours, il y a un journaliste, si je me souviens bien, suédois, qui a demandé à Moshe Dayan, vous ne croyez pas que le bon Dieu vous a un peu aidé? Et lui a répondu, vous n'avez rien compris. C'est moi qui l'ai un petit peu aidé.
Mademoiselle. Plus fort.
Plus fort.
Et la question du projet est un trouble par rapport aux discussions de la
à lui de répondre. Ce serait le temps contemporain. Parce que les Juifs ont toujours été anachroniques, ils vivaient simultanément dans le passé et dans le futur. Pour la première fois de notre histoire, peut-être depuis la sortie d'Égypte, nous savons qu'est-ce que ça veut dire vivre au présent. Mais alors que nous ne sommes pas habitués, nous sommes en plein désarroi. Il y a un peu de ça, peut-être.
Je ne vais pas exactement répondre, je voudrais répondre indirectement en posant une question à Léon Ashkenazi. D'abord, dans ce que vous avez dit, et puis dans la discussion, il y a eu au moins deux mentions de la Révolution française. La Révolution française, située comme précisément révolution, dans la mesure où elle associe, sauf erreur, comme jamais auparavant, un projet moral et un projet politique. Où elle moralise la politique comme jamais auparavant. Or, ce qui est curieux, c'est que dans d'autres types de discours de philosophie politique, la Révolution française est donnée comme le mal absolu, dans la mesure où elle est donnée comme le point de départ de la scission entre le religieux et le politique, entre le théologique et le politique. Et est-ce que ça ne pose pas un problème dans la mesure où, du moins au sens chrétien et étymologique du mot religion, qui est finalement le sens durkheimien, c'est-à-dire la religion, c'est depuis l'étymologie des premiers chrétiens, ce qui relie les hommes à Dieu et les hommes ensemble. La religion, c'est donc le ciment de la société, et à partir de la scission entre le théologique et le politique, c'est la religion qui est laissée au privé et c'est le mal social. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'alliance entre le moral et le politique à partir de la Révolution française et la scission moderne entre le théologique et le politique, du point de vue du messianisme juif, du moins du messianisme tel que...
Juif. Très bien. Très bien, et vous donnez un exemple concret de ces énormes difficultés auxquelles j'ai fait allusion tout au début, parce que nous parlons de contenus hébraïques dans un contexte culturel qui n'a pas de langage approprié, parce que la Révolution française a été la tentative de réalisation du rêve des encyclopédistes, d'ailleurs il y a tout le travail considérable de l'utopie des encyclopédistes derrière, et peut-être ça vient depuis les premiers explorateurs, et je pense à Montaigne en particulier, en milieu chrétien. Et donc, cela n'est pas du tout analogue avec ce dont nous parlons, et vous avez bien fait de dire en point de chute dans le messianisme juif. Vous me permettez, je citerai de nouveau une analyse sémantique que nous avons faite ce matin. Lorsqu'on est hébreu, dans l'hébreu du Talmud, nous disons « ça ressemble », ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Et lorsque nous disons « ça ressemble pas », ça veut dire que ça ressemble même pas. Et j'ai fait le répéter en hébreu, domé et non domé, ça a une toute autre connotation. Et il nous est extrêmement difficile au niveau de la pensée universelle contemporaine, quelles que soient les langues de communication que nous employons, de parler des mêmes choses avec les mêmes mots. C'est pourquoi je disais aussi à monsieur tout à l'heure que notre dialogue serait certainement beaucoup plus fécond s'il venait après, je ne veux pas dire 40 ans, il ne faut pas exagérer, mais au moins 10 ans, de lecture commune du récit de l'histoire biblique selon la conscience hébraïque depuis l'origine. Il faudrait relire toute la Bible ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alors nous essayons de nous parler par allusion. Et il faut beaucoup d'empathie pour arriver à se comprendre. J'y mets tout ce que je peux du mien, mais je sens les difficultés et je ne les impute pas. C'est un problème de langage. De langage dans le sens profond. Et je voudrais vous donner un exemple. Vous savez
que... C'est aussi un problème politique. C'est pas seulement un problème de langage.
C'est ça le problème politique. C'est ça le problème politique. Et politique, dans le sens étymologique, la convivialité dans la même cité, dans la même polis en grec. Et la politesse dans le sens étymologique et qui demande un langage de communication approprié. Et alors peut-être qu'on pourrait court-circuiter toutes ces difficultés de communication avec une autre des dimensions du messianisme prophétique, l'amour pur et simple. Si le préalable c'est qu'on va décider de s'aimer, on peut peut-être se comprendre. Sinon on se comprendra jamais. Et depuis Babel. Je voudrais vous donner un exemple par analogie. Donc ça ressemble, ça veut dire que ça ressemble même pas. Nous avons un problème de recodage du vocabulaire chrétien et du vocabulaire juif dans toutes ces tentatives desquelles je ne participe que dans la périphérie, d'ailleurs, intentionnellement, de ce qu'on appelle le n'importe quoi judéo-chrétien. Et il m'est arrivé souvent de dire à mes collègues, à mes amis, enfin, au niveau de la convivialité, en tout cas, des théologiens chrétiens, que nous ne pourrions vraiment parler ensemble qu'à deux conditions. D'abord que, par exemple, moi, j'accepte d'étudier avec un théologien chrétien au moins un chapitre des évangiles comme lui en parle. Et puis ensuite que lui accepte d'étudier avec moi une ligne de Talmud, comme moi j'en parle. Et pour aller vite. Et puis il y a une autre clause. Il y a une autre clause. C'est que nous parlions au moins, attendez que je les compte, 5 ou 6 langues à la fois. Il faut que nous maîtrisions ensemble l'hébreu, l'araméen, il y en a plusieurs, le grec, le latin, et aussi l'arabe, c'est nécessaire, et en plus une langue de communication. Alors il faudrait s'enfermer quelque part, et au bout de X temps de dialogue authentique, commencer à parler. À ce moment-là, il n'y a plus rien à dire.
Bon, je crois qu'il n'y a pas de mot de la fin, sinon que je rappellerai le mot de Flaubert, surtout pour un sujet comme celui-là, la bêtise conclue.
Merci. Merci. Merci.